Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
J'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de déchirer le Rassemblement National et ils sont tous repartis, plutôt humiliés par l'expérience.
La réponse sans détour de Marine Le Pen à Éric Dupond-Moretti qui vient la défier pour les élections dans les Hauts-de-France. Le garde des Sceaux tête de liste dans le département du Pas-de-Calais. Décryptage avec Jean-Rémy Baudot de ce duel qui s'annonce musclé. Dans l'actualité, la vaccination qui s'accélère en France. Record d'injections hier, 617 000. Alors que dès mercredi, tous les plus de 18 ans pourront profiter de créneaux libres. Affluence déjà, vous l'entendrez, dans certains vaccinodromes. Faut-il élargir encore, augmenter la production de doses, alors que l'Union européenne annonce à l'instant une nouvelle commande de 1,8 milliard de doses Pfizer? On pose la question à mon invité Marie-Paule Kieny, présidente du comité vaccin Covid-19. Dans l'actualité encore, 3 personnes mises en examen pour un projet d'attentat déjoué dans l'Est de la France. 3 personnes membres d'un groupuscule néo-nazi. L'actualité sportive, Neymar qui va re-signer pour 4 ans au PSG, c'est ce que nous confirmera Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Les Parisiens toujours sous pression après la victoire de Lille face à Lens 3-0. Lille toujours leader de la Ligue 1. La météo, et c'est l'été avant l'été, nous dira Valérie Darmon. Et puis c'est l'une des images de cette crise sanitaire, les étudiants qui font la queue devant les banques alimentaires. Invité de ce journal, Ulysse Gutmann-Fort, nommé prodige de la République pour son action avec son association qui réunit désormais 500 bénévoles pour venir en aide aux étudiants. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1, gros plan sur la personnalité de Nordal Lelandais, dont le procès a débuté à Chambéry, et un témoignage très fort, celui de Colette, 93 ans, résistante qui est partie sur les traces de son frère mort dans un camp en Allemagne. Rencontre marquante avec une femme qui a un sacré caractère.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Éric Dupond-Moretti se lance donc dans la bataille électorale. Il a décidé d'aller défier Marine Le Pen sur ses terres des Hauts-de-France. Il ne sera pas tête de liste pour les régionales, mais il prend la tête de liste du département du Pas-de-Calais. Annonce ce matin dans la Voix du Nord. Madame Le Pen refuse de débattre avec moi. Elle ne veut pas venir à moi, alors je viens à elle. Et voilà ce que dit le garde des Sceaux. Voilà ce que lui répond sans détour Marine Le Pen.
L'obsession que M. Dupond-Moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rab. Je suis preneuse. Vous savez, j'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de déchirer le Rassemblement National et opérer des rodomontades. M. Tapie, en son temps, M. Mélenchon, et ils sont tous assez rapidement repartis, plutôt humiliés par l'expérience.
Voilà pour la réponse très directe de Marine Le Pen à Éric Dupond-Moretti. Le ton est donc donné, Jean-Rémy Baudot. C'est bien ce duel qui va se jouer dans les Hauts-de-France.
Oui, c'est exactement cela, un duel. Éric Dupond-Moretti s'en explique ce matin dans la presse d'ailleurs. Madame Le Pen refuse de débattre avec moi, elle ne veut pas venir à moi, alors je viens à elle. Fin de citation. Et cette campagne pour le garde des Sceaux, elle commence dès aujourd'hui. Il sera sur le terrain. On risque d'assister pendant plusieurs semaines à un match de punchline bien senti, de coups politiques. De quoi éclipser peut-être d'ailleurs le fond de cette campagne, les départementales, la région, les enjeux locaux. Et aussi peut-être l'autre grand candidat, Xavier Bertrand. Éric Dupond-Moretti pourrait grappiller des voix aux candidats de droite. C'est d'ailleurs évidemment l'objectif de l'Élysée. Fragiliser Xavier Bertrand au point de le forcer à sceller des alliances avec La République En Marche au second tour contre le RN. Un scénario qui viendrait dynamiter les propres ambitions présidentielles du candidat Bertrand.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Premier week-end de liberté à plus de 10 km et vous vous demandez peut-être déjà à quoi vont ressembler vos vacances cet été. Pourra-t-on aller à l'étranger? À quelles conditions? Début de réponse ce matin avec le secrétaire d'État chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne qui était l'invité de Pierre de Villeneuve.
Il faut distinguer l'espace européen, où la circulation peut se faire justement sans problème grâce à ce certificat numérique que nous avons travaillé ensemble. Après, s'agissant des pays qui sont hors de l'espace européen, d'une part, il y a certains pays dans lesquels, on le voit, les variants sont encore très actifs, etc. Et donc, on va travailler sur des listes et des couleurs. Il y aura les pays verts, les pays oranges, les pays rouges. Il y en a aujourd'hui seulement 5 ou 6 qui sont verts, mais au fur et à mesure, ça va s'élargir, au fur et à mesure de l'amélioration de la situation sanitaire. Et donc, je donne un petit conseil pratique aussi à vos auditeurs, de télécharger une application qui est une application européenne qui s'appelle Reopen, R-E-O-P-E-N. Et là, vous avez, pays par pays, justement, toutes les conditions pour pouvoir se déplacer, voyager. Donc c'est le petit conseil pratique que je donne ce matin.
Jean-Baptiste Lemoine qui était l'invité de la matinale d'Europe 1. Faudra-t-il ou pas un passeport vaccinal pour voyager ? En tout cas, en France, on peut parler de coûts d'accélérateur pour la vaccination. Nouveau record hier avec près de 620 000 injections. La vaccination qui sera ouverte aux plus de 50 ans dès lundi. Ensuite, ce sera pour les plus de 18 ans la possibilité de se saisir des créneaux libres. Le ministre de la Santé veut aussi qu'on élargisse les horaires le soir et au vaccinodrome de 50 en Yvelines, il y a affluence, comme a pu le constater Pierre Herbulot.
92 864, 65, 66. Le nombre de vaccinés indiqués sur l'écran à l'entrée du centre augmente toutes les 15 secondes.
Ça monte en pression.
Jean-Michel Fougeroux est le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui gère le vaccinodrome.
Ça tourne bien, ça fait 3 mois maintenant, 4 mois qu'on est rodé. Ce qui nous permet d'ailleurs de monter, puisqu'on a démarré à 200 doses, je vous le rappelle, par jour. Et là, aujourd'hui, on va être à 3500, peut-être 3600 doses.
Vérification de rendez-vous, questionnaire, injection. L'organisation est devenue presque militaire.
Bonjour madame, votre première injection ?
Dans les tentes bleues où les infirmières piquent tous les profils et tous les âges.
J'ai 45 ans, 21 ans.
Mélodie a profité du dernier élargissement de la vaccination aux assesseurs des élections régionales de juin.
Non, c'est au moins une coïncidence. On m'a donné le tuyau, on va dire, et après, du coup... J'ai voulu être assesseur, hein. C'est le pratique aussi.
Voilà, c'est fini.
Même stratégie pour Guillaume, 24 ans. Il va tenir un bureau de vote à Bois d'Arcy.
Ça me permet d'être libéré de ce poids et de pouvoir me dire qu'en étant vacciné, je vais pouvoir faire sûrement, je l'espère, plus de choses.
Pas besoin de justificatif. Les gérants du centre ont conscience qu'il est donc simple de resquiller. Mais ils laissent faire.
Au 15 juin, on doit avoir un maximum de gens. Donc voilà, on ouvre considérablement.
Au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Pierre Herbulot, Europe 1.
Bonjour Marie-Paul Kieny.
Bonjour.
Présidente du comité vaccin Covid-19, merci beaucoup d'être une nouvelle fois avec nous ce midi sur Europe 1. On vient d'entendre dans ce reportage au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines le véritable engouement, alors que dès mercredi, pour tous les plus de 18 ans, on pourra aussi se faire vacciner si des créneaux sont encore libres. Est-ce que du coup, on ne doit pas élargir encore plus vite avec forcément, c'est le cas d'ailleurs envisagé dès la semaine prochaine par exemple aux États-Unis, la vaccination des adolescents des 12 ans ?
Ben, pour le moment, on ne peut pas encore passer à la vaccination des 12 ans et plus puisque les vaccins ne sont pas encore autorisés pour cette tranche d'âge. Hein. Donc, ce qui est autorisé pour le moment, d'après les autorisations réglementaires, c'est donc plus de 18 ans pour tous les vaccins, sauf pour celui de Pfizer-BioNTech, qui est déjà autorisé pour les plus de 16 ans. Alors, pour les plus de 12 ans, tous les laboratoires sont en cours d'instruction et on peut s'attendre effectivement à ce que dans les mois qui viennent, les vaccins soient autorisés aussi pour les enfants de plus de 12 ans.
Et pour vous, c'est important que ce soit un pas de plus dans cette stratégie vaccinale pour avoir cette immunité collective à laquelle on aspire tous.
Absolument, avec ce qu'on appelle le taux de reproduction maintenant du variant dit anglais qui est maintenant avec nous, qui est la majorité des souches, on pense qu'on a besoin d'avoir à peu près 85% de la population immunisée pour atteindre cet état d'immunité de population où le virus circulera très peu. Eh bien, 85% de la population, ça veut dire qu'effectivement, il faut continuer à vacciner le maximum d'adultes et il faudra progressivement, parce qu'effectivement, dès qu'on va s'adresser aux enfants, la sécurité va être encore plus importante, commencer à descendre en âge, en commençant à aller aux plus de 16 ans. Et quand les vaccins seront autorisés pour les plus de 12, commencer à voir quelles sont les circonstances et quels enfants, et est-ce que ça doit être à l'école, est-ce que ça doit être ailleurs, quelles sont les meilleures conditions de sécurité, les meilleures conditions éthiques aussi, pour que les enfants puissent eux aussi être protégés contre cette maladie qui peut être grave chez eux.
Alors, Marie-Paul Kieny, l'autre question, pour vacciner plus largement, il faut effectivement aussi plus de doses. Emmanuel Macron, justement, a ce matin, lors du sommet européen de Porto, dit qu'il fallait accélérer la production. Je vous propose de l'écouter.
Il faut d'abord que les anglo-saxons arrêtent les interdictions d'export. Deuxième levier, c'est de reconvertir les usines pour produire plus de vaccins. C'est clé. Troisième levier, c'est le don de doses. Et le quatrième, c'est de faire exactement comme on l'a fait au moment du VIH. Là où la propriété intellectuelle bloque, il faut pouvoir la lever. Mais dans l'ordre des temps, je pense que c'est un faux débat de dire l'urgence, c'est ça. L'urgence, c'est produire plus et avoir plus de solidarité maintenant.
C'est ça l'urgence, produire plus aujourd'hui, Marie-Paul Kenny, comme le dit le président Macron.
Oui, absolument, mais il dit deux choses hein, dans son intervention. Il dit qu'il faut produire plus parce qu'on a besoin de pouvoir accélérer encore la campagne vaccinale en France, en Europe. Mais il parle aussi de solidarité, ça veut dire qu'il faut aussi, malgré ça, malgré notre volonté d'avancer vite sur notre vaccination en France, il faut aussi avoir le courage de donner des doses à certains pays qui en ont dramatiquement besoin, comme en Inde par exemple, où la situation se dégrade et où le nombre de morts explose. Donc il faut aussi se montrer solidaire avec les pays les plus pauvres.
Et là, en quelque sorte, il rejoint ce qu'il disait déjà hier, qu'effectivement 100% des vaccins produits aux États-Unis vont aux États-Unis, où il s'agaçait un petit peu avec l'idée de Joe Biden qui dit qu'il faut lever tout de suite, immédiatement, les brevets.
Oui, bien sûr, mais les vaccins, bien que ce ne soit plus le président Trump, les États-Unis ont suivi la philosophie America First, l'Amérique d'abord. Donc, mais on voit que maintenant la campagne de vaccination aux États-Unis s'épuise. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils ont plus de doses, ils ont encore beaucoup de doses, mais les gens qui voulaient être vaccinés sont pour la plupart vaccinés et les autres, il va falloir les convaincre. Donc très vite, les États-Unis vont se trouver dans une situation où ils ont trop de vaccins par rapport à ce qu'ils peuvent utiliser et on peut donc penser qu'ils vont commencer à partager.
Alors justement, autre annonce importante ce matin au sommet européen, il y a quelques minutes, l'Union européenne qui annonce une nouvelle commande de 1,8 milliard de doses Pfizer. D'ailleurs, on notera, Marie-Paul Kenny, que c'est donc ces vaccins à ARN messager, Pfizer, Moderna, qui ont vraiment l'assentiment du public, alors qu'on voit beaucoup de réticences encore sur l'AstraZeneca. C'est ça aussi la bonne stratégie, d'acheter du Pfizer ?
Alors, d'acheter du Pfizer ou du Moderna d'ailleurs, parce qu'en fait, ces deux vaccins se valent. Je pense qu'effectivement, la population a choisi Pfizer par rapport à Moderna pour d'aucune raison, parce que les deux vaccins se valent. Mais ces deux vaccins sont extraordinairement efficaces. Personne ne pouvait s'attendre à ça, parce que en fait, ils n'avaient jamais été testés chez l'homme jusqu'à présent. Donc, c'est un miracle de la science hein, qu'on les ait. Mais quand on voit les données qui sortent maintenant régulièrement, notamment d'Israël, où la campagne de vaccination a été très, très large, on voit que, par exemple, que le vaccin Pfizer, mais le vaccin Moderna, j'en doute pas, est tout aussi efficace, est efficace à presque 95% chez les personnes de plus de 85 ans, qui sont souvent les plus réfractaires. Les personnes âgées sont souvent mal protégées. Donc, ces vaccins ARN messager semblent être effectivement un des outils privilégiés pour lutter contre cette pandémie.
Et si je vous entends bien, Marie-Paul Kenny, un des outils à privilégier effectivement pour cette pandémie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, présidente du comité vaccin Covid-19. Merci à vous.
Merci et bonne journée à tous.
Et puis une étude qui vient confirmer la grande fatigue des soignants qui ont dû faire face à trois vagues de l'épidémie. 40% des infirmiers sont prêts à abandonner le métier selon une enquête de l'Ordre des infirmiers. Je vous propose d'écouter un commentaire.
On a pris en charge les patients Covid et puis après, il n'y a pas eu la traditionnelle mois juillet-août où il y a une baisse d'activité. Il a fallu pendant tout le mois de juillet-août prendre les déprogrammations. Et là, maintenant, on fait à la fois la crise Covid, les vaccinations, les tests PCR et on continue à maintenir l'activité de ce qui n'est pas déprogrammé. La profession n'est pas reconnue pour cet apport-là. On voit bien que le Ségur a eu un fort impact en termes de rémunération. Mais maintenant, ce qui est remis en cause, c'est la reconnaissance des compétences. Et cette profession a besoin de perspectives, c'est-à-dire d'évolution de carrière en interne, d'évolution au service des patients et d'évolution même intellectuelle, d'évolution en termes de formation et de responsabilité.
Patrick Chamboredon, président de l'Ordre des infirmiers, qui répondait à Johanna Chabas.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Dans l'actualité encore ce midi, un projet d'attentat déjoué dans l'Est de la France. 6 personnes qui ont été arrêtées, on l'avait appris hier, et 3 d'entre elles qui viennent d'être mises en examen. Les suspects appartiennent à un groupuscule néo-nazi qui voulait s'en prendre à une loge maçonnique. Guillaume Bier.
Ils avaient baptisé leur groupuscule « Honneur et Nation ». Ces sympathisants d'ultra-droite, admirateurs d'Adolf Hitler et du Troisième Reich, avaient pour intention de commettre un attentat à l'explosif notamment contre une loge maçonnique de Moselle. Un projet dont ils discutaient activement. Ils avaient même commencé à faire des repérages. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient dans le collimateur du parquet national antiterroriste qui avait ouvert une enquête préliminaire dès le mois de février. Les investigations des services de renseignement ont confirmé les soupçons, même si aucune date précise d'un passage à l'acte n'était fixée et qu'aucun explosif n'a été retrouvé en perquisition. La menace était suffisamment sérieuse pour procéder aux interpellations dans le Bas-Rhin et dans le Doubs et présenter trois des suspects à un juge, deux hommes et une femme âgés de 29, 53 et 56 ans, sachant que leur groupuscule était aussi en lien avec Rémi Daillet, figure complotiste exilée en Malaisie et mise en cause dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia le mois dernier.
Guillaume Bier, le chef du service police-justice d'Europe 1. À l'étranger, l'actualité, ce sont ces violents heurts hier entre la police israélienne et des Palestiniens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Près de 200 Palestiniens blessés après ces heurts. Alors comment expliquer ce regain de tension autour du troisième saint de l'islam? Qatar Abou Diab est le politologue et professeur à l'Université Paris-Sud.
L'accès à cette esplanade des mosquées a été toujours un élément de focalisation. Il y avait toujours des mesures israéliennes pour interdire l'attroupement. Et en même temps, à cause de Covid, ces mesures ont été renforcées cette année, ce qui a conduit à plus de passion et plus de violence. Toujours le mois de Ramadan est un mois favorable pour des affrontements. Et en plus, la situation socio-économique, l'impasse côté palestinien avec le report des élections, aussi l'instabilité à l'intérieur des paysages politiques israéliens, tous ces éléments poussent à une sorte d'une flambée de violence plus intense que les autres années. C'est une situation qui devient inextricable.
L'analyse du politologue Qatar Abou Diab qui répondait à Nicolas Feynman. L'actualité sportive, et c'est donc Neymar qui re-signe pour 4 ans PSG. C'est ce que vous pouvez nous confirmer, Julien Froment.
Effectivement, une source nous indique que l'annonce de la prolongation du contrat de Neymar sera faite aujourd'hui, cet après-midi, vraisemblablement vers 15h. Le Brésilien, arrivé en juin 2017 pour un montant record de 222 millions d'euros, a connu 4 saisons en clair-obscur avec Paris, des blessures, des absences à des moments clés, la tentation de repartir à Barcelone. Mais Neymar, c'est aussi 112 matchs, 85 buts, 51 passes décisives, la première finale de la Ligue des champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et cette saison, une nouvelle demi-finale. Enfin, Neymar, c'est une marque qui rapporte gros, très gros au PSG, un club désormais valorisé à plus de 2,5 milliards d'euros selon Forbes. Neymar y est forcément pour beaucoup.
Et évidemment, on se demande maintenant si Mbappé va suivre Neymar en re-signant lui aussi.
Oui, c'est en tout cas un argument de plus pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé l'a rappelé, hein, il souhaite s'inscrire dans un projet sportif ambitieux. La présence de Neymar 4 ans de plus, c'est une aubaine pour Paris, mais le Français ne semble pas pressé d'annoncer sa décision. À 22 ans, il est à un tournant de sa jeune carrière. Le verdict ne devrait pas être connu avant la fin du championnat.
Merci beaucoup Julien Froment. Et donc sur le terrain, vous me le disiez, les Parisiens sont toujours sous pression. Alors que Lille a conforté sa place de leader après sa victoire à Lens 3-0, le PSG qui joue à Rennes demain. Autre affiche dès 13h, donc dans 10 minutes, oui. C'est Saint-Étienne, Marseille. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi et c'est l'été avant l'été, Valérie Darmon.
Effectivement, ces maximales qui sont en forte hausse et qui gagnent souvent une dizaine de degrés par rapport à hier. Le thermomètre qui affiche cet après-midi entre 17 et 21 degrés de la Bretagne aux frontières du Nord jusqu'en Alsace, 22 à 26 ailleurs, jusqu'à 30 dans le sud-ouest, même un peu plus de 30 sur le sud de l'Aquitaine. Voilà qui nous crée d'ailleurs un choc, hein, parce que le mois d'avril a été le plus froid depuis 2003 en Europe et le plus froid en France depuis 20 ans. Du côté du ciel en Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien, le centre, grâce au vent, le soleil finit par s'imposer, même s'il reste très voilé, après la matinée qui a été nuageuse. De la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne, à Rhône-Alpes et sur le Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Corse, là, le soleil s'impose facilement. C'est le cas depuis ce matin. Beaucoup de soleil, mais du vent marin et un vent d'autan de plus en plus fort en cours d'après-midi dans son domaine, avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoine.
À suivre, c'est l'heure des examens de fin d'année pour les étudiants, mais ce qui restera sûrement l'une des images de cette crise sanitaire, ce sont les files d'attente des étudiants devant les banques alimentaires. Je reçois Ulysse Gutmann-Fort dans un instant. Il a été salué avec le titre de prodige de la République pour son action pendant cette crise sanitaire pour venir en aide aux étudiants.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
C'est donc l'heure des examens de fin d'année pour bon nombre d'étudiants, mais ce qui restera sûrement l'une des images de cette crise sanitaire, ce sont ces files d'attente devant les banques alimentaires. Bonjour Ulysse Gutmann-Fort.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Étudiant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en licence et droit et sciences politiques, excusez du peu, 20 ans, et vous venez de recevoir le titre de prodige de la République. Ce qui salue votre engagement pendant cette crise sanitaire pour venir en aide aux étudiants avec votre association COP1 Solidarité étudiante. Et je sais qu'à peine sortie du studio, vous allez rejoindre une distribution alimentaire Place de la Bastille à Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer à l'action ?
Un constat partagé entre différents amis. On était 6 à l'initiative de ce projet et on se rendait compte, tous et toutes, quelle que soit notre situation, que c'était de plus en plus difficile pour nous tous, économiquement, mais sur le plan alimentaire. Et donc l'idée, c'était de pouvoir essayer d'aider d'autres étudiants. Parce que le second constat, c'était aussi que les étudiants n'osaient pas solliciter de l'aide. C'est difficile, quand on a 20 ans, de se dire « j'ai besoin d'aide pour pouvoir manger », un besoin qui est si vital. Et donc c'est ce constat, on s'est dit « il faut faire quelque chose ». Et le fait qu'on soit tous étudiants, c'était cette porte d'entrée pour pouvoir aider d'autres étudiants.
Aujourd'hui, ce sont plus de 500 bénévoles. Absolument. Avec des dons que vous recueillez comment ?
Alors ça aussi, c'est une petite gymnastique et en fait, on a évolué beaucoup. Au départ, on aidait 150 étudiants par semaine. Aujourd'hui, c'est près d'un millier. Et là, quand je vais rejoindre tout à l'heure la distribution, c'est déjà pour 400 étudiants en une journée. Et ces dons, ils viennent de tout un tas de choses. Il y a des particuliers et là, il faut saluer aussi beaucoup de particuliers qui nous ont fait des dons lors de collectes ou bien...
Qu'ils vous donnent, par exemple ?
Plein de choses. On a une livraison, là, il y a encore une semaine, quelqu'un qui a fait des courses chez dans un supermarché et nous a amené que des sauces tomates. Mais c'est trop cool parce qu'en vrai, de vrai, nous, on reçoit lors de collecte énormément de pâtes, de riz, des choses comme ça, et la sauce tomate permet d'égayer aussi la distribution. On a aussi beaucoup d'invendus qui viennent de commerce biologique par exemple, de Rungis, des invendus de Rungis pour pouvoir donner des fruits et des légumes, ce qui me permet, excusez-moi, je le précise maintenant, nous on aide les étudiants à manger, mais on veut aussi les aider à bien manger. Et c'est aussi pour ça qu'on va donner des fruits et des légumes lors de toutes nos distributions et au maximum des produits de qualité.
On voit que c'est de vraie logistique au quotidien, comme on fait aussi quand on passe ses partiels en ce moment.
On jongle. Là, je suis en partiel cette semaine en plus, donc il faut le faire. Mais c'est surtout l'urgence. Et en réalité, si moi je suis président de Copain Solidarité étudiante, on était 6, on est 6 dans le bureau, mais on est surtout 500 bénévoles. Et c'est grâce à ces 500 bénévoles, donc on jongle, on s'organise. Aujourd'hui, on a plein de responsables de plein de choses, de la distribution, des stocks, de la logistique, des collègues, des partenariats, plein de choses. En fait, c'est une fourmilière qui s'est organisée.
Et vous êtes appuyé effectivement aussi, je vous ai vu auprès du Secours Populaire.
Absolument.
Par exemple.
Oui. Tout l'esprit Copain, c'est en fait de faire une solidarité à toutes les échelles. Donc récupérer des invendus pour éviter le gaspillage tout en aidant des étudiants, mais aussi s'appuyer sur des associations qui depuis très longtemps aident des étudiants. Donc le Secours Populaire, les Restaurants du Cœur par exemple, nous donnent des plats chaque semaine qu'on va distribuer aux étudiants, la Croix-Rouge sur des produits d'hygiène, voire plein de petites associations moins connues qui vont aussi récupérer ce qu'on n'a pas donné pour la semaine, pour aider d'autres étudiants, pour faire des maraudes, etc. Et tout l'esprit Copain, c'est faire un cercle de solidarité pour aider les étudiants dans cette période malheureusement qui n'est pas facile, tout en faisant la solidarité le plus grand possible.
On entend votre énergie et combien elle fait du bien de l'entendre à ce micro. Qui sont ces jeunes qui font appel à vous ? Parce que vous avez fait une étude très précise, ce qui m'a marqué, majoritairement des jeunes femmes.
Majoritairement des jeunes femmes. Moi, on a fait une étude sur quasiment 1200 étudiantes. L'idée était de connaître le profil de ces étudiants, savoir qui ils sont et quels sont leurs besoins pour pouvoir déjà s'adapter sur nos distributions. Et donc, vous l'avez dit, beaucoup de femmes. 67% des étudiants qui nous sollicitent sont des femmes, des étudiantes. Ce qui vient nous poser la question, comment ça se fait ? Alors, évidemment, énormément de pistes d'explications, notamment sur les métiers qui ont disparu, les métiers du social, le babysitting, les métiers de l'événementiel, les métiers majoritairement féminins, des dépenses aussi peut-être plus importantes, et notamment au niveau des dépenses, toutes les dépenses au niveau des protections périodiques, des serviettes, des tampons, ce qui nous a amené, nous, à en distribuer. En toute honnêteté, au début, quand on a commencé Copain, on ne distribuait que des produits alimentaires. Aujourd'hui, on a multiplié, on distribue, on fait des paniers entre 8 et 10 kilos, exactement, avec notamment des produits d'hygiène. Parce que c'est une grosse dépense, et quand on est un étudiant qui a des difficultés pour se nourrir, acheter des produits d'hygiène, ça peut être un coût vraiment important.
Ce qui m'a marqué aussi, c'est que beaucoup d'étudiants se sont endettés cette année, parfois à hauteur de 10 000 euros.
C'est ça, c'est un des autres enseignements. Beaucoup d'étudiants en école de commerce, mais pas uniquement. Et un endettement qui s'accentue au fur et à mesure que le temps passe, parce que des étudiants qui n'avaient pas besoin avant de s'endetter, et heureusement d'ailleurs, parce qu'elles avaient un emploi à côté ou des parents qui pouvaient les aider. Malheureusement, ces emplois étant disparus, des parents pouvant avoir perdu leur emploi ou au chômage partiel, perdre 20-30% de ses revenus. Et donc un endettement, soit un prêt à la consommation pour juste se nourrir ou bien pour payer ses frais de scolarité, c'est quelque chose qui malheureusement va laisser des effets dans le temps.
Une chose qui est importante aussi, Ulysse Guttmann-Forge, vous entendez parler des Restos du Cœur, et Dieu sait que c'est important pour Europe 1, les Restos du Cœur, on se souvient de l'appel de Coluche qui espérait justement qu'un jour, les Restos du Cœur, on les fermerait, ils sont toujours là. Est-ce que c'est un peu ça que vous redoutez justement? On entend tout cet élan que vous avez, mais j'imagine que vous n'avez qu'une envie, c'est de les fermer, ces banques alimentaires.
Mais on le redoute très fortement, et nous, quand on a créé Copain, c'était pour répondre à la situation urgente sur le moment. Sauf que maintenant, cette situation urgente, elle existe depuis 9 mois. Copain a 9 mois, et on espère que Copain n'aura pas 10 mois, n'aura pas 1 an, n'aura pas 3 ans. Maintenant, et c'est ce que je disais, il y aura des effets dans le temps, et c'est pour ça qu'on est de moins en moins optimiste quand on voit les files d'attente qui s'allongent et les sollicitations qui augmentent.
Une dernière chose, je crois qu'il y a quelque chose qui vous importe, une vente aux enchères, c'est ça,
c'est
bientôt?
Oui, bah parlons-en, c'est l'actualité du moment.
Parce que j'imagine que vous avez besoin d'aide, toujours.
On a toujours besoin d'aide et on nous demande souvent comment on peut faire pour vous aider. Alors quand on est étudiant, on peut très bien devenir bénévole, qu'on soit bénéficiaire ou pas, mais de notre façon, l'agence en ligne Tagent organise une vente aux enchères au profit de Copain avec des lots d'exception, des couturiers Omar Sy qui nous proposent une paire de chaussures, une vente aux enchères. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir faire rêver des étudiants avec des choses extraordinaires, des œuvres d'art, des photos de Nicolas Saliagas, par exemple, ou une visite de l'Académie française, etc. Et aussi de pouvoir nous soutenir de cette façon, pour pouvoir nous aider les étudiants à manger, mais surtout, en tout cas on l'espère, à bien manger de la façon la moins désagréable possible quand on vient dans la distribution de Copain.
Merci beaucoup Ulysse Guttmann-Forge. Je crois que d'ailleurs c'est cet après-midi rue des Tournelles.
J'y vais, mais dès que l'interview est finie, on va rejoindre pour la distribution.
Merci infiniment d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle le nom de votre association Copain Solidarité Étudiante qui vous a valu avec tout votre groupe.
Il
faut le dire, je sais que c'est important. Ce titre de prodige de la République, merci infiniment d'être venu ce midi sur Europe 1, dans le studio Europe 1. Vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur la personnalité de Nordal Lelandais jugé à Chambéry et un témoignage très fort. Colette, 93 ans, résistante, qui est partie sur les traces de son frère, mort dans un camp en Allemagne. Un sacré caractère, Colette, vous l'entendrez.